on commence.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bien, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Principe Actif. Donc, nous sommes le 25 février, c'est donc l'émission mensuelle du groupe d'Amnesty International Évreux sur l'antenne de Principe Actif. Une heure pour parler de l'actualité des droits humains, de plein de sujets, et une heure pour vous informer sur tout ce qui se passe relatif aux droits humains. Comme il est dit dans le générique, on doit agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Donc on va essayer effectivement de vous parler dans ce sens-là. Autour du micro avec moi, Sabine.
Bonsoir.
Edith.
Bonsoir.
Ronan derrière les manettes.
Bonsoir.
Et moi-même, Didier. Alors tout d'abord, un petit mot d'excuse pour nos amis de l'émission Calier del Ritmo, et qui était rediffusée, mais qu'on a dû couper avec l'accord du responsable de Principe Actif, qu'on a dû couper pour pouvoir commencer à l'heure. Si les gens qui animaient l'émission étaient à l'écoute, qu'ils soient rassurés, elle va être rediffusée dans son intégralité demain, m'a-t-on dit. Donc on a un petit peu empiété
à 15h.
On a un petit peu empiété sur leur enregistrement.
Mais c'est pas de la censure, non,
pas du tout. Voilà, c'était juste un petit problème de programmation. Voilà. Donc, Calier del Ritmo, retour sur l'antenne demain 15h. Voilà. Ce soir une émission qui va être principalement centrée sur l'actualité. L'actualité en termes de droits humains est très très chargée, je dirais, en ce moment, avec la République centrafricaine, avec la fin des Jeux Olympiques, on vous en avait parlé le mois dernier, on va faire un petit bilan, Jeux Olympiques et droits humains, avec la Syrie, bien sûr, et son actualité, on ne peut plus dramatique. Et avec
la Russie,
tout
en
à fait.
Oui.
En plus de Sochi, il y a l'actualité sur la Russie. Merci Edith. Il y a également
quelques bonnes nouvelles.
L'actualité aussi, l'actualité des spectacles, enfin culturels, voilà.
Locale.
Avec une soirée théâtrale à laquelle on était présent à Verneuil, dont vous parlez Sabine. Et puis notre actualité locale. Enfin, encore une fois, plein de choses. Donc, on commence tout de suite par la République centrafricaine. Qui est dramatiquement cité en ce moment dans les médias, avec des massacres, avec des enfants coupés en morceaux, je n'invente pas le terme, j'entendais hier sur le site d'Amnesty une interview d'un petit gamin là-bas, et qui disait « ma sœur a été coupée en deux ».
Oui, une petite vidéo, vraiment, voilà. Oui.
Et quand on entend ça, effectivement, on a envie d'arrêter l'ordinateur, tellement ça fait froid dans le dos. Voilà la République centrafricaine. Alors, la première question qu'on peut se poser avant de développer sur l'actualité toute récente, c'est comment en est-on arrivé là?
C'est ton tour, Didier.
Voilà.
Tu nous fais l'historique.
Voilà, un petit historique très très rapide, mais pour essayer d'y comprendre un peu plus. Bon, la République centrafricaine est issue des anciennes colonies françaises et d'un territoire qui s'appelait la colonie Oubangui-Chari, qui regroupait le Togo, la République centrafricaine actuelle, au nord, le Niger, et puis un autre État, je ne sais plus lequel, pardonnera.
L'Afrique,
voilà.
Le milieu, voilà. Vous regardez, c'est la
au moment de l'indépendance, tout ça, ça a été scindé en plusieurs États, c'est souvent ce qui se passe. Et donc, la République centrafricaine a déclaré son indépendance le 1er décembre, le 13 août 1960. Le premier chef d'État était Barthélemy Boganda, qui est considéré comme le père de la nation. En fait, il est resté très très peu de temps au pouvoir et il est mort dans un accident d'avion dont les causes n'ont jamais été élucidées, tiens donc, déjà. Et il a été remplacé par un autre président qui s'appelait David Dacko. Donc ceci en 1960. Il est resté au pouvoir, ce David Dacko, jusqu'en 1965. Et là on va entamer une suite de coups d'État et de revirements non démocratiques au niveau de la présidence, c'est le mot qu'on puisse dire. Donc en 1965, il y a Jean-Bédel Bokassa qui le renverse.
Ça dit quelque chose.
Ça rappelle la jeunesse.
Ouais. Voilà. Jean-Bédel Bokassa qui prend le pouvoir par la violence en 1965. et qui, en 1976, s'auto-proclame empereur Bokassa Ier. Moi, je me rappelle bien, effectivement.
Il a été reçu en France.
Oui.
Il y a des inaugurations aussi avec Bokassa.
La France avait largement soutenu sa débilité,
on peut dire,
d'auto-proclamation empereur. C'était absolument ridicule. Mais la France était, avec M. Giscard d'Estaing,
était en très bonne relation
avec ce monsieur, qui a fini comme un dictateur, mais qui a fini empereur avec des turpitudes. Il a assassiné des enfants aussi, lui, d'ailleurs. En 79, donc, la France, trouvant effectivement que ça fait un peu désordre dans le paysage, cet empereur Bokassa Ier, le renverse. Tiens donc, qu'est-ce que fait encore la France là-bas? Je croyais que l'État était indépendant. On réécoutera une émission que j'avais faite il y a pas mal de temps maintenant, il y a au moins 2 ans, sur
la politique africaine de l'Élysée.
C'est ça, les États deviennent indépendants, mais la France reste quand même, et surtout les militaires, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc en 79, Bokassa Ier est renversé. David Dacko, qui était président avant lui, revient pour très peu de temps au pouvoir. Et il est chassé du pouvoir le 1er septembre 1981. Donc Bokassa ayant été éliminé en 79. En 81, donc Bako est renversé lui-même par un coup d'État par le général André Kolinga, qui établit un régime militaire qui n'avait lui non plus absolument rien de démocratique.
Ils n'ont pas voté beaucoup.
Voilà. Il restera au pouvoir jusqu'en 93, et où, à suite d'accords négociés à Paris d'ailleurs, un début de démocratisation commence à être implanté et des élections présidentielles ont lieu. Et à ce moment-là, Ange-Félix Patassé est élu président de la République. Lui-même restera au pouvoir jusqu'en 2001, où il est renversé, devinez par quoi ?
Par un coup d'État.
Ça ne change pas.
Oui, je m'attendais aussi.
Il est renversé par un camion, oui, c'est ça.
Mais oui, on cherchait des gens, nous, là.
Non, par un coup d'État. Un coup d'État qui est fomenté par un général de l'armée centrafricaine s'appelle Monsieur Bozizé. Monsieur Bozizé restera au pouvoir, lui non plus, c'est pas entre guillemets un enfant de cœur, restera au pouvoir un certain temps. Et donc, il est lui-même renversé. Excusez-moi, je me suis trompé. Une élection présidentielle a lieu après plusieurs reports, donc il accepte quand même qu'il y ait un vote démocratique. Et le 13 mars 2005...
Démocratique, ça c'est à voir.
Il est élu président de la République, alors qu'il était déjà dictateur. Donc voilà, on peut se poser des questions, comme tu dis.
Élections démocratiques.
Bref. À ce moment-là, il y a une première, justement, en contestant les résultats des élections, il y a une première guerre civile qui a lieu, donc au début des années 2000, et entre ses partisans et des milices qui ne reconnaissent pas son autorité. Et
tu vas arriver en 2012.
On va arriver, oui, effectivement. Et donc une première guerre civile, c'est ça, ravage le pays entre 2004 et 2007, jusqu'à la signature d'un accord de paix. Et à ce moment-là, les populations d'origine musulmane qui sont dans le nord du pays, parce qu'ils sont juste en dessous, en fait, la République du Niger, se rebellent contre le président élu et ils forment les fameuses milices Séléka dont on a entendu parler maintenant. Et donc, effectivement, par rapport à ça, on aboutit à la situation actuelle où M. Bozizé a été renversé à son tour par ses milices musulmanes et s'est autoproclamé président de la République, M. Michel Diotodia, en 2013, l'année dernière. Et là, ça a été le début de la deuxième guerre civile dont on parle maintenant.
Alors, nous, on fait un tout petit retour sur 2012. Vas-y, Didier. Voilà.
J'espère qu'il y aura un questionnaire, parce que moi, tous les prénoms, j'ai
oublié. On peut les oublier, c'est juste pour voir un peu...
Non, mais si vous voulez vous rappeler d'une chose, c'est coup d'État, violence, violence et contestation du pouvoir des uns par les autres.
Ils ont eu un peu de paix, là-bas, pendant ces dernières années-là.
Voilà. Et donc, c'est ça, il n'y a pas eu beaucoup de moments de
rétrêve.
Alors, il est dit par Amnesty, parce que c'était tiré d'un petit texte historique, mais il est dit par Amnesty que la violence, la haine et l'instabilité sont une conséquence directe de la crise des droits humains qui a débuté en décembre 2012, lorsque la Séléka, très majoritairement musulmane, a lancé une offensive armée qui s'est terminée par la prise du pouvoir en mars 2013. À la tête du pays pendant près de 10 mois, les forces de la Séléka ont commis des massacres, des exécutions extrajudiciaires, des viols, des actes de torture et des pillages, et ont incendié et détruit de nombreux villages chrétiens. Lorsque la Séléka s'est retirée, les forces internationales ont laissé les milices anti-Balaka dont on parle aussi maintenant, c'est-à-dire des milices chrétiennes, prendre le contrôle du pays, ville après ville. Les violences et l'expulsion forcée des communautés musulmanes étaient prévisibles. Le pouvoir déclinant des forces de la Seleka n'a en rien diminué leur brutalité lorsqu'elles se sont retirées. Même avec une capacité de mouvement et des moyens opérationnels fortement entravés, les membres de la Seleka ont poursuivi les attaques violentes contre les civils, chrétiens et leurs biens. Des membres armés des communautés musulmanes, agissant indépendamment ou aux côtés de la Seleka, se sont également livrés à des attaques de grande ampleur contre les civils chrétiens. Bref, on efface tout, on recommence, mais cette fois, effectivement, c'est encore pire qu'avant.
Voilà, donc on va essayer de vous expliquer, parce que vous voyez bien que c'est très compliqué. Alors en plus, ce qu'il y a surtout d'extrêmement visible, c'est les massacres au niveau de la population. En dehors des problèmes de religion, c'est des gens. C'est des enfants, comme disait Didier. C'est des civils qui sont en train d'être carrément un nettoyage ethnique et des violences interreligieuses.
Un génocide.
Voilà, tu dis des mots là. Bon, donc on est vraiment dans une situation tout à fait terrible. Donc, on finit juste un petit point historique, c'est que en 2013, le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé le déploiement de forces de maintien de la paix dans le pays. Ces forces sont composées de 5500 soldats de l'Union africaine, la MISCA, et de 1600 soldats français. L'opération Sangaris se trouve à Bangui et dans plusieurs villes au nord et au sud-est de la capitale. Donc là, voilà, l'état où en était l'intervention française au niveau de la République centrafricaine. Donc malheureusement, ces soldats des forces internationales de maintien de la paix n'ont pas réussi à empêcher le nettoyage ethnique des civils musulmans dans l'ouest de la République centrafricaine. C'est ce qu'écrit Amnesty dans un rapport qui a été rendu public ce mercredi 12 février. Donc, le problème, c'est comment protéger les communautés musulmanes encore présentes dans le pays. Les soldats de la paix devraient faire barrage au contrôle des milices anti-Balaka et déployer des troupes. Mais manifestement, elles sont insuffisantes pour pouvoir amener le calme dans le pays. Les milices anti-Balaka, donc vous avez suivi, c'est les milices plutôt d'origine chrétienne ouais. Contre les musulmans. C'est-à-dire que tout le monde a fait des exactions dans tous les sens.
Oui, donc voilà, c'est vengeance sur vengeance.
Voilà, c'est le dernier qui parle.
Et ce qu'il faut bien voir, c'est que les querelles religieuses, entre guillemets, aussi bon dos, parce qu'en fait, on instrumentalise effectivement les rivalités religieuses pour autre chose, pour la guerre civile, pour le pouvoir des uns sur les autres.
Ça fait penser au Rwanda. Ça.
Et il faut quand même dire que quand on voit les témoignages, c'est que dans les pays, dans les villages, les gens vivaient ensemble. Donc là, ils en sont effectivement, avec ce système de massacre et de Seleka et d'anti-Seleka qui passent, qui brûlent, d'être complètement les uns, même les voisins, d'être en guerre et de pouvoir se tuer ou s'empêcher ou devoir fuir leur pays. Donc au cours des dernières semaines, Amnesty a recueilli plus d'une centaine de témoignages de première main, parce qu'il y a des personnes d'Amnesty qui sont actuellement en République centrafricaine, sur les attaques de grande ampleur menées par les anti-Balaka contre les civils musulmans dans les villes de Bouali, Boyali, Bosambélé, Bosamtélé et Boaro dans le nord-ouest de la République centrafricaine. Les troupes internationales n'ayant pas été déployées dans ces villes, laissant les civils sans protection. Alors, il y a une attaque très meurtrière qui a eu lieu le 18 janvier à Bosamtélé. Elle a fait plus de 100 victimes parmi la population musulmane, dont des femmes, des vieillards, notamment un imam d'environ 75 ans. Alors, il y a aussi un témoignage aussi qui est terrible. C'est un petit garçon appelé Abdul Rahman qui a raconté à Amnesty International que le 14 janvier, le camion au bord duquel il voyageait avait été stoppé à un poste de contrôle tenu par les anti-Balaka. Ceux-ci ont exigé que tous les passagers musulmans descendent. 6 membres de sa famille ont alors été tués. 3 femmes et 3 jeunes enfants, dont un bambin. Alors, on a aussi un témoignage d'une chercheuse qui est actuellement en Centrafrique, qui va relater ce qu'ils ont vu dans un village. Donatella Rovella et Joanne Marinier qui nous parlent d'un massacre. Donc, Ronan, tu vas nous faire le témoignage en audio.
Hier, lorsque nous étions en route de la ville de Yaloké vers le village de Bouguera, à sud de Yaloké et à l'ouest de la capitale, Nous nous rendions dans ce village pour enquêter un massacre qui a eu lieu le 24 janvier. Or, à notre arrivée dans le village, nous avons trouvé qu'un autre massacre avait eu lieu le 10 février. Il y avait des corps un peu partout, certains en état de putréfaction, d'autres qui avaient été brûlés, certains qui étaient même en train d'être mangés par des chiens. Parmi les corps, il y avait le corps d'un petit bébé qui ne pouvait pas avoir plus de 7 ou 8 mois, peut-être même moins. Il y avait également les corps de 3 femmes. Donc nous, on a vu plus qu'une vingtaine de corps, mais les jeunes du village nous ont dit qu'il y en avait d'autres un peu aux alentours du village en brousse. Ils nous ont dit que les milices anti-Balaka avaient mené une attaque le 10 février qui s'est soldée avec la mort ou la fuite de tous les habitants musulmans qui restaient encore dans le village. Beaucoup avaient été tués et d'autres avaient fui déjà au moment du massacre du 24 janvier. Là, aujourd'hui, il ne reste plus aucun musulman dans ce village. Dans une maison caché dans un coin et absolument terrorisé, j'ai trouvé une petite fille musulmane qui a peut-être 11 ans et qui n'avait pas mangé ni bu depuis le jour du massacre. Elle n'arrivait pas à se tenir debout, elle était absolument terrorisée. Elle a dit que sa maman et son père ont été tués. Elle, c'était la seule musulmane qui restait dans cette ville. Les villageois chrétiens nous ont dit de l'amener parce que si elle restait dans le village, elle allait mourir. Et pour l'instant, elle est terriblement traumatisée. Elle arrive à peine à parler. Mais on sait qu'elle est maintenant entre des bonnes mains. Par ailleurs, ce matin, en quittant la ville de Boda, nous étions en train d'aller vers le sud, à une 45 km au sud de Boda. On est tombé sur le village de Beaubois, où les anti-Balaka venaient de mener une attaque. On a trouvé le corps de 3 hommes devant la mosquée. Et puis on a trouvé les quelques habitants musulmans de ce village qui étaient cachés en brousse à sud du village, qui nous ont dit que les anti-Balaka avaient tué le maire qui était un musulman, donc le maire de la ville et ses 2 fils. On a alerté les forces de maintien de paix françaises et qui sont au nord du village, et les forces de la MISCA qui sont basées au sud du village. Les forces de la MISCA, on les a trouvées sur la route, ils étaient en train de se rendre au village. Hier soir, nous avons été dans la ville de Boda, ils sont là pour l'instant pour assurer la protection de la communauté musulmane, pour qu'ils ne soient pas tués avant qu'ils puissent quitter. Donc ils vont rester jusqu'à que les musulmans puissent quitter cette ville. Dans le village de Boguera, où le massacre a eu lieu au 10 février et aussi auparavant au 24 janvier, il n'y en avait pas. Dans l'autre village, il n'y en avait pas non plus. Au village de Beaubois, où l'autre tuerie a eu lieu ce matin, il n'y en avait pas non plus. En fait, à notre connaissance, les forces internationales sont présentes dans la ville de Boda, les forces françaises, et puis dans la ville de Mbaïki, entre les deux, il y a à peu près 4 heures de route.
Alors voilà, vous avez entendu le témoignage d'une chercheuse d'Amnesty, donc je vous redis le nom, Donatella Rovera. Elle est conseillère pour Amnesty pour les situations de crise et elle se trouve avec une autre collègue à elle, Joanne Mariner, depuis janvier en République centrafricaine. Donc ce sont des témoignages vraiment, ils sont dans le pays, quand ils peuvent aller dans le pays, ils sont sur Bangui et ils nous renvoient effectivement beaucoup de témoignages très, très perturbant. Hein, c'est la moindre des choses qu'on peut dire. On imagine l'horreur de ces gens. Parce que là, on a ces témoignages dans cette région de Centrafrique, mais il y a d'autres régions où, malheureusement, on pense que les musulmans aussi sont assassinés ou contraints à la fuite. Les anti-Balaka ont recours au massacre des civils et à des destructions de maisons, de commerces, de mosquées pour mener un nettoyage ethnique et vider la République centrafricaine de sa population musulmane. Amnesty dit : nous sommes en présence de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. La crise en République centrafricaine est marquée par de nombreux massacres. Et chaque jour, des hommes, des femmes, des enfants sont tués à coups de fusil ou de machette. Et les cadavres sont parfois laissés dans la rue où ils se décomposent lentement. Les forces internationales de maintien de la paix sont, dans bien des cas, cruellement absentes des endroits où leur présence est plus que nécessaire. Les soldats ne sont pas déployés en nombre suffisant pour faire face aux évolutions rapides de la situation sur le terrain. Dans certains cas, par ailleurs, on le voit bien, ils se montrent hésitants pour intervenir contre les milices anti-Balaka et ainsi manifestent peu d'empressement pour protéger les autres minorités, essentiellement musulmanes, qui sont menacées. Donc Amnesty veut absolument qu'il y ait des forces internationales de maintien. Elle demande qu'ils doivent vraiment faire barrage au contrôle des milices anti-Balaka. Et Didier, tu me disais aussi qu'il y avait une...
Oui, il y a un communiqué que j'ai vu hier sur le site d'Amnesty. Un communiqué qui disait que l'ONU a pris une résolution, mais une résolution non contraignante, comme souvent, une résolution pour demander est-ce que effectivement les forces onusiennes et les casques bleus, etc., et les forces militaires en présence, non centrafricaines, fassent tout leur maximum pour aider les ONG humanitaires, Médecins du Monde et autres, hein, il y en a beaucoup, qui veulent effectivement venir en aide à la population civile, ce qui nous paraît effectivement un minimum. Donc Amnesty, évidemment, est tout à fait favorable à cette considération, à cette prise de position. Elle demande même effectivement à ce que cette résolution devienne de non contraignante à contraignante, et que l'urgence, effectivement, c'est d'aller sauver les civils, et que tout le restant, c'est beaucoup de baratin, mais c'est juste du baratin, quoi. Donc voilà où on en est actuellement par rapport à ce dossier extrêmement, extrêmement douloureux. On va peut-être passer un peu de musique pour histoire de souffler un peu.
Moi, je vais juste dire, parce que bon, c'est vrai que là, on a vraiment eu envie de vous faire un récit. C'est peut-être un peu lourd de vous parler de toute cette historique, mais ça explique un peu, ça fait comprendre comment les choses se sont mises en place ou ne sont pas mises en place dans ce pays qui fonctionne de façon très, très brute. Mais allez voir aussi sur le site ou ailleurs des témoignages de personnes directement qui vous renvoient aussi leur incapacité de gérer eux-mêmes ces mouvements de troupes, parce qu'il y a tous ces mouvements de troupes et il y a aussi la population civile qui tourne la tête à droite, qui tourne la tête à gauche, qui ne sait plus où aller et qui est vraiment en grande déshérence.
Ronan parlait tout à l'heure, disait tout à l'heure que ça rappelait le Rwanda, effectivement. Ouais. Malheureusement, ça rappelle ce genre de très mauvais souvenir.
Ah, où les voisins, ils s'entretuent entre eux, voilà. C'est tout pareil.
Voilà. Et c'est aussi une conséquence. Je vous ai fait un petit historique tout à l'heure, enfin extrêmement bref et un peu compliqué pour les coups d'État à répétition. Mais si cet État-là, effectivement, avait été géré de façon beaucoup plus démocratique depuis son indépendance, sans doute aussi qu'on n'en serait pas là et que la mentalité des gens serait différente. Ça, c'est aussi, il faut bien se rendre compte que la démocratie, c'est pas pour rien.
Ça s'apprend. Voilà.
Voilà, c'est pas pour rien. Donc, si on en est là, c'est aussi une conséquence de tout ça. Un petit peu de musique.
Allez, musique.
On y va. Parti.
Tell me that
Bien de retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est toujours le groupe d'Amnesty International d'Evreux. On est avec vous jusqu'à 8h pour parler de droits humains. On vient d'entendre un morceau qui n'est pas récent, mais bon, moi j'aime bien et ça fait toujours plaisir. C'est le morceau Revolution des Beatles. Et voilà, donc qui dit dans le refrain « Nous voulons tous changer le monde ». Ils le disent en anglais, mais ils disent « Nous voulons tous changer le monde ». Et bien on sera sur ce point-là d'accord avec eux.
Oui, mais il y a du boulot.
Il
hein.
y a du boulot, oh. On est là pour ça. Renan va vous lire une de ses bonnes nouvelles dont il a le secret.
Oh, peut-être même deux.
Bon,
allez, deux.
Donc, on commence par la Lituanie. Donc, un grand pas en avant dans une affaire de restitution d'un détenu de la CIA. Un tribunal en Lituanie a jugé recevable la requête d'un ressortissant saoudien qui demande l'ouverture d'une enquête sur les tortures qu'il affirme avoir subies dans un centre de détention secret de l'agence centrale du renseignement CIA, installé dans ce pays. C'est un grand pas en avant pour la justice. La décision du tribunal dans l'affaire Mustafa Al-Awazi est une réelle victoire dans l'établissement de la complicité présumée de la Lituanie. Attendez, 30 secondes.
Ah, il a perdu sa feuille.
Perdu ensuite.
Ça y est.
La complicité présumée de la Lituanie dans les programmes de restitution et des détentions secrètes menées par la CIA. Le tribunal lituanien montre l'exemple à toute l'Europe et aux États-Unis en respectant l'état de droit et en reconnaissant que les victimes de torture, de disparition forcée, imputables à des agents européens et de la CIA, jouissent du droit absolu à des enquêtes approfondies.
Bah oui, effectivement. C'est ce que dit Amnesty depuis des années et des années. Tu en avais une deuxième, tu disais ?
Allez, on va où là ? Dans quel pays ?
Continuons dans les choses positives.
On part en Malaisie.
Ah oh.
La Malaisie a fait un pas en avant en suspendant une exécution et doit maintenant aller plus loin. La décision du gouvernement malaisien de suspendre une exécution prévue le vendredi 7 février 2014...
Qui veut dire une condamnation à mort, je suppose, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Est une bonne nouvelle. Mais la vie de centaines d'autres condamnés à mort en attente d'exécution reste menacée. Il faut savoir qu'en Malaisie, les exécutions se déroulent dans le secret, sans annonce préalable ni posthume. La transparence en matière d'application de la peine capitale est une garantie essentielle dans les affaires où l'accusé risque la peine de mort, car non seulement elle permet des débats éclairés et constructifs sur la question, mais en outre, elle offre la possibilité de déposer des recours pour garantir le respect de la procédure légale.
D'accord. Eh bien, merci. Pour ces deux avancées en termes de droits humains. Alors on va revenir maintenant à un sujet qu'on avait déjà abordé le mois dernier, mais c'était juste avant. Et maintenant, comme on est juste après, on va vous en dire quelques mots. On va vous parler de la Russie et des Jeux Olympiques à Sotchi, donc qui viennent de se terminer. On vous avait raconté le mois dernier que ce n'est pas parce qu'il y avait les JO, qui sont tout à fait respectables en tant que tels, que les droits humains devaient être oubliés.
Tout va mieux.
Eh bien, malheureusement, on peut en tirer le bilan, non pas en termes de médailles. C'est vrai que la France a eu 15 médailles, au fait, sur un commentaire qui n'a rien d'Amnesty, mais la France a eu 15 médailles. Il paraît qu'on est très fiers parce qu'on n'a jamais fait autant de médailles. Bref.
Ah ben, ça n'enlève pas aux sportifs, voilà. Quoi.
Mais il y a un bilan.
On n'a rien contre les sportifs.
Mais
hein.
Si, non, absolument pas. Mais si la France est fière de ses médailles, ben nous, on l'est beaucoup moins, non pas par rapport aux médailles françaises, mais beaucoup moins par rapport en termes de droits humains en Russie et à Sotchi, parce que là, par contre, c'est pas du tout brillant. Et que pendant les JO, il se sont passé des choses. Bien bizarrement, les chaînes d'info n'en ont jamais parlé. Oui, je vais donner la parole. On me fait un petit signe. Les chaînes d'info n'en ont jamais parlé de ce qu'on va vous parler à l'instant.
Il y a certains.
C'est bizarre.
Mais pour l'audimat, c'est pas terrible. Quoi.
Ouais, c'est
qui
bizarre quand même, comme il y a des infos qui passent pas.
Ils ont eu des articles un petit peu avant.
C'était peut-être pas assez sportif.
Ou qui passent peu. Sabine, à
qui
toi.
Passe pas du tout. Moi, j'ai rien entendu.
Ouais, un petit peu avant, quand même, dans cette radio, donc, certaines.
Avant les Jeux Olympiques, ouais, on a parlé.
Petit édito de Stéphane Oberheit, qui est le directeur général d'Amnesty International France. et qui dit qu'à l'occasion de la remise des 330 000 signatures de notre pétition en faveur de la liberté d'expression et de rassemblement en Russie,
Alors, vous avez signé.
Merci à tous ceux qui ont participé par photo
plusieurs fois,
par
on
signature.
L'a présenté plusieurs fois.
Donc on était dedans. Et de rassemblement. Donc Sergueï Nikitine, le directeur du bureau d'Amnesty International à Moscou, avait organisé une action d'envergure avec 6 autres directeurs européens. Ils avaient voulu répondre à son appel pour participer à ce temps fort de notre campagne. L'enjeu était de venir en force pour les rendez-vous avec les autorités, rencontrer les ambassadeurs respectifs, parler avec la presse lors de l'événement avant la remise de la pétition. Une ballerine a dansé main enchaînée sur un extrait du lac des Cygnes de Tchaïkovski par une température de moins 20. Beaucoup de chapeaux. Et ils sont allés aussi rencontrer d'anciens prisonniers d'opinion libérée et des familles de détenus de la place Bolotaïna et échanger avec des responsables d'ONG russes de défense des droits humains. Autant l'accueil des autorités était à l'instar de la météo,
moins 20,
pas terrible, autant celui des membres de la société civile rencontrés a été très intense, passionnant et sympathique. Stéphane dit qu'il a beaucoup d'admiration devant le courage de ces militants russes qui affrontent tracasseries et menaces au quotidien. Continuons à les soutenir et à dénoncer les lois liberticides, les discriminations et les violences en Russie.
Et à Sochi, il faisait pas moins 20 d'après ce que j'ai cru comprendre, c'était pratiquement le printemps là-bas.
Non, ils étaient à Moscou là.
Ouais, je sais, j'ai compris.
Voilà. Et puis nous, on les soutient aussi parce qu'être militant en Russie tout de suite.
Justement, on va vous en parler un petit peu.
Et ils vont encore recevoir des photos. parce qu'on va continuer.
Ah non, pour l'instant, elle est finie la pétition photo. La pétition photo est terminée pour l'instant.
On va reprendre.
Donc là, on va vous parler justement concrètement. On va vous citer des gens qui ont été arrêtés pendant les JO, dont ils ont vu leurs droits. Dont ils ont vu leurs droits humains fondamentaux contestés, qu'on puisse dire. Et donc, on va commencer effectivement par vous dire quelques infos. Encore une fois, ça n'a pas fait la une de France 2
ou
autre chaîne.
Qu'est-ce qui s'est passé pendant les Jeux ?
Alors, 9 militants et journalistes ont été arrêtés à Sotchi le 18 février. Parmi eux, Nadejda Tolokonnikova. Bon, une fois, c'est pas Ronan.
Médaille d'or.
qui dit les noms, généralement, il est embêté.
Attendez, vous les connaissez, celles-là. Attention, interrogation.
Et Maria Alekhina. Alors, si vous ne les connaissez pas, on vous rappelle que c'était 2 Pussy Riot qui ont été libérés au mois de décembre. Semyon Simonov du Centre Mémorial pour les Droits Humains. Les journalistes de Noyova Gazeta et de Radio Free Europe et des militants locaux des droits humains, comme David Akin. Ils ont donc été arrêtés le 18 février. Bon, ils ont en fait, c'est pas précis dans le communiqué, mais étaient libérés rapidement après. Mais enfin, ils n'auraient jamais dû être arrêtés.
Ils ont fait des gardes à vue de plusieurs heures.
Alors, les 2 Pussy Riot dont je vous ai parlé ont été arrêtés soi-disant pour avoir volé des objets dans un hôtel. En réalité, d'après elles, leur arrestation visait à prévenir une action vidéo coup de poing qu'elles souhaitaient réaliser. Le projet s'intitulait « Poutine va vous apprendre à aimer votre mère patrie ». Elles ont été relâchées quelques heures plus tard.
Alors, le directeur des programmes Europe-Asie centrale d'Amnesty International nous fait part de ses impressions par rapport à tout ce qui se passe en Russie et à Sotchi. Dans la Russie de Poutine, les autorités ont transformé les anneaux olympiques, symbole mondial d'espoir et de dépassement de l'esprit humain dans ce qu'il y a de meilleur, en menottes pour enchaîner la liberté d'expression. C'est scandaleux. Des arrestations des militants à Sotchi et aux Jeux Olympiques sont signalées presque quotidiennement. Et le Comité international olympique doit condamner fermement ces 9 arrestations et toutes les autres interpellations des militants survenues à proximité de Sotchi. Là, c'est pareil, on ne l'a pas beaucoup entendu, le Comité olympique.
Non. Donc, Nadia Tolokonnikova affirme avoir été arrêtée, c'est d'une et deux Pussy Riot, affirme avoir été arrêtée 3 fois en 3 jours. Le militant des droits humains David Akin
pas de chance.
Avait aussi été arrêté la veille pour avoir organisé une manifestation solidaire en soutien à Yevgeny Vishko, prisonnier d'opinion et militant environnementaliste condamné le 12 février 2014 à 3 ans de prison. On va en dire un petit mot tout à l'heure d'ailleurs.
Oui, mais je pense que tu vas pouvoir en dire rapidement.
On peut le dire tout de suite.
Parce que ce qu'on peut dire, nous, Amnesty, c'est que ces gens, ils sont ciblés parce qu'ils s'expriment pacifiquement, simplement, et que les autorités russes doivent arrêter de les arrêter.
Voilà.
Voilà.
Ces militants, les militants Evgeny Vitichko, là, et de militants écologistes.
Ça t'a frappé, Didier, oui. Hein, ouais, parce que c'est un militant écolo.
Ouais. Bah, oui, mais enfin bon.
Et
quoi?
Et la suite? Qu'est-ce qui lui est arrivé, ce pauvre?
Tout de même, moi.
Je m'attendais à autre chose.
Moi aussi, je m'attendais.
Mais non, parce que
sur quel terrain vont mes édites, je me demandais.
Non, tu nous as dit, je veux en parler.
Oui, donc, tout de membre de l'Organisation de défense de l'environnement Veille écologique pour le Caucase. On rappelle qu'il y a eu des massacres environnementaux pour la construction des sites à Sotchi. Mm. Basé dans le territoire de Krasnodar, et qui a accueilli les JO de Sotchi, ont été arrêtés séparément les 3 et 4 février, respectivement. Ils ont été condamnés à une peine de détention sur la base d'accusations mensongères, de hooliganisme et de résistance opposée aux forces de l'ordre. Tous deux se trouvaient derrière les barreaux, tandis que les visiteurs de leur région natale, de Krasnodar, profitaient de la cérémonie d'ouverture des JO. Donc le prisonnier Evgenor Vitichko a ensuite, excusez-moi si je prononce mal, a ensuite été condamné à 3 ans de prison. En raison de son militantisme écologique.
C'est écrit très petit sur les papiers.
Sur les communiqués d'Amnesty International Londres, c'est écrit très petit, donc j'avais un peu de mal à relire. Voilà, 3 ans de prison pour avoir protesté contre les atteintes à l'environnement pour construire les sites à Sotchi. Quand même, je trouve ça.
Et pour les atteintes, il y en a vraiment beaucoup pour l'environnement.
Je trouve ça balèze.
Mais quand on voit ce qu'ils sont capables de faire pendant qu'il y a des journalistes à Sotchi, alors maintenant les Jeux Olympiques sont terminés.
Inutile de dire que dans peu de temps...
Bah le pauvre, lui, il ne sera même pas libéré parce que 3 ans de prison,
enfin,
là...
Inutile de dire que dans peu de temps, Amnesty va promulguer une action en son sens.
Et peut-être une photo pour faire plaisir à Sabine.
Pour sa libération immédiate et sans condition.
On va faire des photos.
Voilà, mais Sabine, elle est la reine de la photo.
Tous ceux qui ont été expatriés.
Donc,
aussi,
triste bilan en termes de droits humains pour ces Jeux de Sotchi. Très triste bilan. Et voilà, le comité olympique, effectivement, qui devrait faire respecter les valeurs humanitaires, a encore manqué à tous ses devoirs.
Alors, on continue encore. Allez, oui. Une petite couche pour la Russie.
On
est désolé, on n'a pas besoin de chercher loin. C'est vraiment l'actualité qui parle. Donc, moi, je vais vous relire un article de la Constitution de la Fédération de Russie. C'est l'article 31. Les citoyens de la Fédération de Russie ont le droit de se rassembler pacifiquement, sans armes, de tenir des réunions, meetings et manifestations, des marches et des piquets. Voilà.
T'es sûr que Poutine est au courant de ça?
Eh bien, écoute, il ne doit pas bien apprendre son article 31 de la Constitution. Donc, vous vous rappelez, les 10 jours pour signer, pour la Fédération de Russie, c'était les 3 de Boletnaya. Eh bien, ces 3-là, plus leurs amis, ils ont été jugés il y a 4 jours, là. Donc, on a successivement vérifié sur le site d'Amnesty où ils en étaient. Et ils n'ont que manifesté, mais ils sont que condamnés, on va dire comme ça peut-être.
Hein. Oui, bah oui.
Voilà, donc le 24 février...
En gros, c'est vous condamné, vous finissez en tôle, quoi.
Les 8 manifestants de l'affaire de Bolotnaya ont été condamnés à des peines allant de 2 à 4 ans de prison. C'est un peu comme ton militant écolo, quoi. Hein. Au terme d'une parodie de procès à motivation politique. C'est Amnesty là, qui le dit et qui a lu... tous les textes du procès. Donc, c'est pas du tout... voilà, c'est en plus... ils peuvent donner les preuves par rapport à ce qu'ils disent. Donc, le 24 février 2014, le tribunal de Moscou a énoncé les peines contre 8 de ces manifestants. Pendant le procès, des dizaines de personnes ont été arrêtées à l'extérieur du tribunal, dont Masha et Nadia, des Pussy Riot, et l'opposant Navalny. On les retrouve, hein, Pussy Riot, elles sont vraiment...
Ah ben elles sont très actives, oui.
Voilà.
Elles ont décidé de mener la vie dure à Poutine.
Non, mais elles méritent une médaille. Hein.
On ne pourra que les soutenir encore, c'est sûr.
Alors déjà, logiquement, ils étaient...
Non, mais là, ils étaient à l'extérieur du tribunal. Là, ils n'étaient pas actifs du tout. Je pense qu'elles sont vraiment...
Voilà, non, mais ils arrêtent tous ceux qui veulent dire quelque chose.
En haute surveillance, là...
Voilà, donc le 21, déjà, toutes ces personnes savaient qu'elles étaient condamnées, mais d'un seul coup, le verdict avait été ajourné au lundi. On ne sait pas pourquoi, il n'y avait pas de raison officielle. Donc déjà, le vendredi, il y avait 192 personnes qui étaient venues manifester pacifiquement leur soutien aux prisonniers, dont des journalistes et au moins un enfant. Ceux-là, qui ont juste manifesté pacifiquement, ils risquent des amendes allant jusqu'à 600 euros pour participation à un rassemblement non autorisé.
Vous
dans
vous le respect de l'article 31.
Voilà.
Absolument.
Donc les prisonniers...
Je te dis, ils ne savent pas lire là-bas.
...ont été jugés de manière totalement inéquitable. Et pour 6 d'entre eux au moins, Amnesty a établi qu'ils n'ont fait que manifester pacifiquement lors d'un rassemblement autorisé.
Autorisé en plus.
Le 6 mai 2012 pour contester les conditions de la réélection de Vladimir Poutine.
Et peut-être que dans la Constitution russe, en fait, les articles qui sont marqués n'engagent que les gens qui les lisent.
Ah, voilà, ça doit être ça.
Ou alors on a peut-être
c'est
une mauvaise traduction.
C'est parce qu'ils ne l'ont pas.
Bon, Sabine.
Ils ont perdu la Constitution.
Sabine, on n'a pas beaucoup entendu depuis les le début
accusés,
de l'émission, Sabine.
Les accusés Sabine, de ce procès ont été confrontés à un usage abusif de la force par la police. Certains d'entre eux ont cherché à prévenir la violence, d'autres à se protéger. Quelques-uns ont été pris juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Comme les Pussy Riot, d'ailleurs. Tous sont victimes d'une parodie de procès politiquement motivés, d'après de John Dalhousie, l'Europe et l'Asie, directeur du programme central d'Amnesty International.
Il explique encore autre chose, là. Je pense que tu peux continuer. Sabine.
Ce qui s'est passé sur la place Molotnaya le 6 mai 2012 n'était pas la répression d'une émeute, mais l'écrasement dans le sang d'une protestation. Au contraire de ce qu'ont prétendu les autorités, le procès Bolotnaya n'a pas mis au jour une violence organisée, mais plutôt un système de justice pénale entièrement malléable aux dictats de ses maîtres politiques. Contrairement à la ligne officielle, il n'y avait pas d'émeute de masse. Il y avait de la violence, majoritairement du fait de la police. À ce jour, cependant, aucun policier n'a été traduit en justice pour ces abus.
Alors, ce sont donc des prisonniers d'opinion qui doivent être immédiatement libérés. Les deux autres ont été pris dans la même spirale d'injustice. Les deux autres, ce sont les deux qu'Amnesty ne considère pas comme des prisonniers d'opinion, mais qu'elle soutient. Leur condamnation pour participation à des émeutes de masse est absurde et doit être annulée. Le rassemblement de cette place, Bolotnaya, était autorisé. Et si de graves violences ont été commises, elles ont été essentiellement le fait de la police contre les manifestants. Donc, entre le témoignage du directeur d'Amnesty et ce que peuvent en dire les militants russes, on est tous d'accord. Donc, on va quand même vous dire un peu à quoi sont condamnés les gens aussi, parce que c'est aussi impressionnant. Donc, Artom Soviolak a été condamné à 2 ans et 7 mois. Amnesty le considère comme un prisonnier d'opinion, condamné simplement pour avoir exercé son droit à la liberté.
Stéphane Dzimin a été condamné à 3 ans et demi. Il est un prisonnier d'opinion, condamné uniquement pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d'expression et de manifestation.
Denis Louskevitch a été condamné à 3 ans et demi. Il est un prisonnier d'opinion, condamné uniquement pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d'expression et de manifestation.
Yaroslav Belousov a été condamné à 2 ans et demi. Il est un prisonnier d'opinion, condamné uniquement pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d'expression et de manifestation.
Alexei Politkovitch a été condamné à 3 ans et demi. C'est un prisonnier d'opinion condamné uniquement pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d'expression et de manifestation.
Sergueï Krivov a été condamné à 4 ans. Il est un prisonnier d'opinion condamné uniquement pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d'expression et de manifestation.
Alexandra Dukanikna a été condamnée à 3 ans et 3 mois avec sursis. Et Alexei Barak Bonaf a été condamné à 3 ans et 7 mois.
Bien voilà, donc n'hésitez pas à continuer à vous renseigner, à les soutenir et à agir pour eux sur le site d'Amnesty, www.amnesty.fr. N'hésitez pas à y aller, à y retourner quotidiennement ou régulièrement ou très souvent. Vous aurez des infos sur eux, vous aurez des actions pour eux. Il est évident qu'on ne va pas lâcher M. Poutine, qui, pour faire plaisir à Sabine, n'est plus du tout mon ami d'ailleurs.
Oh.
Il ne l'a jamais été.
Bon, je pense qu'on peut peut-être passer une petite
pause. Oui, on va passer
une petite pause
parce que voilà, on a beaucoup parlé.
Un petit peu de musique pour la liberté d'expression.
Et c'est parti.
Tu vois. Thank you.
people say we got it made. Don't they know we're so afraid?
Isolation.
Just a boy and a little girl trying to change the whole wide world.
Isolation. Isolation.
The world is just a little town. Everybody trying to put us down.
Isolation.
I don't expect you to understand.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc le groupe d'Amnesty International Évreux. Donc on vient d'entendre Isolation, pardon, c'est le titre interprété par un groupe qui s'appelle Snow Patrol, et ça fait partie d'un CD qui a quelques années maintenant, mais qui est paru en soutien à Amnesty et qui s'appelle Make Some Noise, et ce sont des chansons de John Lennon, des reprises de chansons de John Lennon. Voilà. Il y a Ronan qui a une bonne nouvelle à vous dire,
et
qui concerne l'actualité des droits humains en France.
En France, donc la trêve hivernale pour les squats et bidonvilles. Le projet de loi pour l'accès au logement est un urbanisme rénové adopté le 20 février a rétabli la trêve hivernale pour tous, y compris les occupants de bidonvilles et de squats. Amnesty International se félicite de cette mesure qui va dans le sens d'une meilleure protection des plus vulnérables.
Alors, ça marche pour les Roms aussi ?
Tout à fait, oui.
Les campements roms ne pourront plus être expulsés pendant la trêve hivernale, effectivement, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'était une motion qui a été soutenue par un tas d'ONG, il y en a eu 10 ou 11, je crois, dont Amnesty.
Il y a la Fondation l'Abbé Pierre, il y a le DAL, les Médecins du Monde.
Il y en avait plus que ça, oui. Enfin, bref. Donc on a obtenu effectivement au moins cette considération. Les campements, quels qu'ils soient, ne pourront plus être expulsés l'hiver.
Et ça se passe chez nous, c'est bien aussi.
Ça se passe chez nous. Ouais. Bon, il y en a encore eu un quand même qui a été expulsé juste avant que ce soit adopté.
À Lyon.
Et il y a eu des enfants qui se sont retrouvés à la rue. Des enfants en bas âge qui se sont retrouvés à la rue, sans logement, sans rien, en plein hiver, c'est cool.
Et justement, là devant moi, je vois une photo du commande de Lyon, justement, du bidonville. Bah, quand on voit la photo, on a du mal à imaginer que c'est en France. Quoi.
Sans commentaire. On peut dire aussi que les gens qui habitaient là-bas, ils sont en France depuis longtemps, leur gamin est à l'école. Il y avait peut-être des conditions de logement assez désastreuses, mais ce n'est pas la solution.
Et le plus inacceptable, c'est qu'on ne les prévient même pas. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils cassent tout, ils partent avec 2-3 sacs, ils oublient on voit les nounours, les enfants.
C'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien, jouets, c'est vraiment.
Enfin, c'est
comme
le
rouleau compresseur.
Aucun respect du peu qu'ils ont.
Sabine va vous parler de théâtre,
Alors, culturel.
Oui, une très, très, très belle pièce.
Qu'on a vue.
Ronan, il faisait autre chose.
A vu samedi dernier à la salle des fêtes de Verneuil.
Et oui, j'étais pas libre ce soir-là.
Donc, bien au-dessus du silence, c'est une création théâtrale, Les Poètes Engagés, une adaptation et une mise en scène de Violaine Arsac avec Éric Vincent, Jérôme Pazza, Alyocha Itovic, Bertrand Adler, Nadège Perrier, Violaine Arsac. Parce que tu as beaucoup de choses à dire.
Non.
Donc il existe une poésie Il existe une poésie qui est un acte, une poésie qui est résistance, témoignage, une poésie qui dénonce, une poésie contre l'oubli. Et des poètes qui ont pris la parole comme on prend des risques, comme il existe un théâtre qui prend parti. Un article disait...
Vous précisez que la pièce est soutenue, enfin, la pièce est sortie, enfin, a été créée il y a deux ans, elle est soutenue depuis deux ans par Amnesty International. Oui. C'est aussi pour ça qu'on y était. Et on a fait un stand.
Oui, on va lire la note d'intention. Donc, bien au-dessus du silence, ne nous parle pas d'une époque évolue ou d'un pays oublié. Bien au-dessus du silence, nous parle du monde dans lequel nous vivons, des combats qui s'y mènent, de la liberté qui s'y cherche. S'emparant des textes comme de dialogues, cinq comédiens prêtent leur voix et leur corps aux mots des poètes qui ont pris parti contre la misère, les inégalités, le racisme ou la guerre. Une création théâtrale où des personnages luttent, vivent, respirent, combattent et se questionnent sur notre engagement face au monde. Portée par une mise en scène ancrée dans le monde d'aujourd'hui, les voix portent les mots soutiennent les corps se mêlent aux voix. Peu importe que les textes aient été écrits il y a deux siècles, 50 ans ou 10 jours, en français, en espagnol, en russe ou en arabe, quand des hommes meurent de faim, subissent la dégradation ou la dictature, la parole du poète a une portée universelle. Et il nous appartient de continuer à la faire résonner bien au-dessus du silence. Quelques petits passages ?
Petit.
Si, tu peux lire un passage.
Un passage.
On est obligé de censurer Sabine, la pauvre, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps.
Non, mais c'était très, très
Il va
bien.
Falloir qu'on fasse plus qu'une émission par mois. On a trop à dire.
Mais d'après les échos que j'ai vus, il y a eu du monde au niveau du stand aussi.
Oui, il y a eu beaucoup de monde au niveau du stand.
Tout le monde est venu signer.
Parce que tout le monde est venu signer.
J'y étais pas, mais j'ai vu le résultat des signatures. C'est félicitations, quand même.
Demain ne suffisent pas pour écrire, par les temps qui courent et les misères qui grondent. Il en faudrait 3, 4. De Abdelatif Labi. Vous avez demandé pourquoi la poésie ne parle-t-elle pas du rêve, des feuilles, des grands volcans de son pays natal ? Venez voir le sang dans les rues. Venez voir le sang dans les rues. Venez voir le sang dans les rues. De Pablo Neruda. La misère, messieurs, voulez-vous savoir où elle est ? Où elle en est, la misère ? Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller ? Jusqu'où elle va ? Je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen-Âge, je dis en France, je dis à Paris et au temps où nous vivons. Ça a quand même été écrit par Victor Hugo. Et c'est d'actualité. C'est trop dur de choisir.
Un autre passage.
Et tu ferais pas du théâtre, toi
Allez, Sabine, un dernier passage, on va devoir arrêter.
De Paul Éluard, sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer Liberté.
Alors Sabine, elle dit très bien les textes. Et alors en plus, pour cette pièce-là, il y avait une mise en scène vraiment superbe. Ouais. Avec les comédiens qui les mettaient en situation et en écoute pour nous, le public, qui était vraiment très, très intéressante. Donc, le nom de la pièce ?
Bien au-dessus du silence.
Bien au-dessus du silence.
Et ça passe dans la région.
Oui, le spectacle repasse le jeudi 3 avril à 20h45 au théâtre de Dreux.
Alors allez-y, franchement, c'est un superbe moment et c'est des comédiens engagés qu'il faut soutenir aussi.
Et il y a eu un article intitulé « Des mots pour barricade » et c'est vraiment ça.
Voilà. Un très beau moment.
Et j'y serai pas encore le tour.
Et c'est militant, mais c'est agréable, c'est vraiment intéressant.
C'est très poignant. Voilà. C'est très poignant. Voilà. C'est très bien fait. Bon.
Et notre actualité à nous ?
Actualité à nous, deux choses. On vous rappelle la foire aux livres de groupe de Verneuil-Val-de-Reuil qui a donc lieu le week-end du 15 et 16 mars au lycée Marc Bloch. Donc le samedi et le dimanche de 10h à 18h, je crois.
Alors vous y allez, vous achetez des livres, vous nous les redonnez après.
Vous les lisez.
Pour la note de
Il faut y aller, c'est un moyen de soutenir le groupe.
On prend les consignes.
C'est un moyen important de soutenir le groupe de Louvier Val d'Or.
Très bel, un beau moment avec beaucoup de livres.
Et je vous rappelle qu'Amnesty fonctionne sans subvention, donc il faut bien qu'on trouve l'argent dont on a besoin. Quelque part, les foires aux livres en font partie.
Là, les livres, c'est intéressant à les acheter.
Voilà. Autre actualité, là, ça concerne directement les militants, enfin les gens qui nous suivent sur Évreux. On n'a pas beaucoup d'infos parce qu'on est en pleine préparation et il y a encore plein d'inconnus, mais on va faire une action en soutien à la Syrie. On voulait vous parler de la Syrie ce soir, mais on n'aura pas le temps. Non. On va faire une action en soutien à la Syrie. Ça va se passer le samedi 15 mars. On ne sait pas encore exactement où dans Évreux, mais on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Et précisément,
bon, enfin, après-midi, si. Soir, vous voilà. Gardez
mais
du temps pour nous.
Vous suivez la presse, ça paraîtra dans la presse en temps utile. Vous suivez
vous
la presse,
Principe
vous écoutez
Actif.
Principe Actif et vous aurez davantage d'informations. Retenez déjà la date, samedi 15 mars, ici à Évreux, un événement important en soutien au peuple syrien qui est, comme le peuple de la République centrafricaine, un peuple massacré.
Oui, ça sera pour, le troisième anniversaire,
pour la cause, tu sais, il y a un philosophe qui disait la guerre, c'est le massacre de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. Non, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, en soutien à des gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. Voilà, donc c'est ce qui se passe aussi en Syrie. Donc le 15 mars, vous nous suivez, vous venez nous rejoindre, vous aurez des informations complémentaires dans les médias d'ici là. Voilà.
Un petit rappel de nos coordonnées.
Donc si vous voulez nous contacter, amnesty.evreux@gmail.com. Amnesty, c'est A-M-N-E-S-T-Y. Renan n'a même pas le temps de vous faire un appel à l'action aujourd'hui, très exceptionnellement. Ce sera remis pour le mois prochain, c'est pas grave, mais vous pouvez nous contacter par mail pour vous demander toutes les infos que vous voulez sur ce qu'on fait, sur ce qu'on fait localement et sur ce qu'on fait nationalement. Vous aviez autre
qu'est-ce
chose
qui se passe
par rapport aux enfants?
Moi j'ai la date de la prochaine émission.
Oui, la prochaine émission. Quand on parlait des livres, moi je disais, bon, allez en rigolant, allez les acheter à Val-de-Reuil, mais pensez aussi, le groupe d'Évreux, on cherche des livres.
Oui.
Hein, on organise notre foire aux livres, c'est avec ça qu'on se finance. Donc si vous en entendez parler autour de vous, n'hésitez pas, un petit mail, un petit coup de fil, et on est preneurs.
Bien sûr. La prochaine émission, Renan, tu m'as dit, c'était?
C'est le mardi 25 mars.
Mardi 25
Encore
mars.
Encore comme aujourd'hui.
Je pense que ça doit être le... Je ne sais plus comment on appelle ça, quand tu as deux mois qui se suivent pareil.
Allez, première question, comment est-ce qu'on appelle?
Ils se suivent
et
tous.
On
vous rappelle que ça y est, Sabine a déjà très vite.
Les mois se suivent tous, oui Sabine, c'est
on vous
sûr.
Rappelle, on vous rappelle que si vous avez raté le direct des émissions, vous pouvez vous rattraper. Il y a les podcasts sur le site de Principe Actif, www.principeactif.net.
D'ailleurs, dites-nous.
Vous allez sur la page podcast, vous tapez Amnesty International et vous avez toutes nos émissions depuis plus de 3 ans.
Allez, un sondage.
Aucune raison pour ne pas les écouter.
Vous nous écoutez plutôt en direct ou en podcast? On veut savoir.
On ne sait pas.
Allez,
on a des informations dans les deux sens.
Mais voilà, faites-nous un petit signe.
Elle a raison, Edith, un petit signe.
Et puis en dehors de notre mail local, enfin du groupe local d'Évreux, on vous rappelle le site d'Amnesty France, donc pour avoir plein d'informations, pour aller signer en ligne, pour vous informer sur les droits humains, www.amnesty.fr. Il est 19h59, c'est l'heure du générique de fin que Renan vient de lancer. On est très pro. Au mois prochain.
Bonsoir,
les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.